Bonjour, bonjour tout le monde, chers auditeurices. Donc aujourd'hui, on est de retour avec mes camarades du master de création littéraire. Donc bonjour à vous, moi c'est Lucie.
Moi c'est Savannah.
Moi c'est Sam.
Moi c'est Manon.
Et aujourd'hui, on a trouvé le titre de notre émission, puisque ça fait maintenant 2 semaines qu'on présente une bibliothèque mentale, qu'on essaie d'élargir un peu et sortir du format papier. Et donc aujourd'hui, on présente ce titre, on va s'appeler Les Lessiveuses. Donc on a choisi ce titre d'émission pour marquer déjà notre sororité, ce moment de partage et de parole où les femmes d'antan se trouvaient autour du bac pour laver leur linge, la lessive mousser, les idées se libérer pour une émulsion de la parole au fil de l'eau. Et on va s'inscrire dans cette tradition ici, car nous sommes lessivés, nous aussi, de ce monde où on ne trouve pas notre place. Et on a besoin de se décrasser aussi, de nos frustrations, de nos douleurs. Et donc on se retrouve réunis autour de nos questionnements et pour faire entendre nos voix. Donc voici les lessiveuses. Alors moi, je voulais commencer aujourd'hui pour aborder le sujet de la contraception masculine. Parce que c'est encore un sujet tabou qui touche les hommes et bien sûr les femmes aussi. Alors je tire le sujet d'une BD qui est une enquête témoignage qui s'appelle Les Contraceptés, c'est Enquête sur le dernier tabou. Elle a été publiée il y a 2 mois chez Steinkiss. Et donc cette BD, elle est dessinée par une femme, elle est coécrite par deux hommes qui se sont intéressés à la contraception masculine et qui montrent toutes leurs étapes, toutes les informations qu'ils ont pu avoir. Donc c'est une vraie enquête très, très intéressante. Et je tire aussi mes informations d'un court documentaire qui a été mené par Mediapart et d'un plateau sur une de leurs émissions qui s'appelle À l'air libre, que je vous encourage aussi à aller voir, qu'on trouve facilement sur YouTube. Alors moi aujourd'hui je vais parler de 2 moyens de contraception principalement. Il y a la vasectomie et l'anneau thermique, parce qu'il y a beaucoup d'autres moyens, mais c'est un vaste sujet. Donc j'ai choisi ces 2 moyens. Alors la vasectomie, c'est le moyen de contraception masculine la plus connue et en même temps la plus méconnue, parce qu'elle est bourrée d'a priori. Donc c'est une opération, elle dure 15 minutes. Et elle consiste à sectionner les canaux qui transportent les spermatozoïdes. Et la grosse fausse idée qu'on a sur la vasectomie, c'est qu'elle est irréversible. Alors, elle est irréversible dans 50% des cas. Donc, elle est quand même considérée comme un moyen de contraception. Ça reste un engagement assez fort. Donc, de l'avis du docteur urologue Vincent Huppertan, donc il sort dans la BD, il fait quand même autorité dans le métier, hein, il a l'habitude d'en pratiquer. Il remarque des changements dans son cabinet petit à petit au niveau de la vasectomie. D'abord, il y a un nombre croissant de cette opération et aussi le grand changement, c'est l'âge de la clientèle. Auparavant, 80% des clients, c'était des hommes de plus de 40 ans qui avaient déjà des enfants. Maintenant, ce sont des jeunes hommes qui ont 18, 19, 20 ans et qui décident de s'engager dans cette contraception masculine. Alors, c'est une opération, somme toute, David médecin, c'est pas moi qui le dis évidemment, assez simple en fait. Très concrètement, on va, avec une anesthésie locale, on va sectionner un petit peu la peau, faire une entaille très fine, sortir les 2 canaux et les sectionner. Et donc le médecin Vincent Huppertan explique dans ce petit documentaire que l'obstacle majeur à cette opération, ce n'est pas l'acte en soi, parce qu'il y a des opérations que subissent hommes et femmes beaucoup plus graves et dangereuses que celle-là. En fait, comme on est dans une société patriarcale où on ne touche pas à cette zone, l'obstacle, il est culturel en fait. Il explique que comme c'est une zone d'où naît le plaisir et même l'extase, donc une zone sensible par définition, on s'imagine que cette zone, tout ce qui sort du plaisir, s'il y a quelques douleurs, quelques délicatesses, elle va être décuplée également, ce qui est faux, du coup. Florence Boitrel, qui intervient aussi sur le plateau, donc c'est une médecin, andrologue, présidente de la SALF, elle explique que c'est un problème, cette contraception masculine assez confidentielle, qui est quand même assez française finalement. Parce qu'au Québec, un homme sur trois a fait une vasectomie et aux États-Unis, 10% des couples utilisent la vasectomie comme moyen de contraception. Donc, elle explique que pourquoi la vasectomie est aussi méconnue quelque part en France, c'est parce que les médecins généralistes ne sont pas assez formés sur la question. Parce que les médecins généralistes, ils ont la confiance de la famille, souvent ils suivent les patients pendant très longtemps, et donc ils ne vont pas renvoyer leurs patientes-patients vers la contraception masculine. Ils vont renvoyer plutôt vers des gynécologues pour les femmes, vers la pilule, le stérilet, etc. Donc à ce niveau-là, il faut une formation des médecins aussi. Sur le plateau intervient aussi Maxime Labrie. Alors lui, il a un parcours assez intéressant. C'est un ancien infirmier qui a transformé son garage en fabrique d'anneaux thermiques. Donc l'anneau thermique, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est assez intéressant de voir que pour la contraception masculine, on peut le faire soi-même. Ça, c'est assez déroutant. J'y reviendrai. Donc il connaît bien aussi donc, tout ce milieu médical et il explique quand même que pour la vasectomie, il faut rappeler qu'elle n'a été autorisée en France qu'en 2001. Donc c'est quand même, c'est vraiment pas vieux. Donc on peut dire qu'elle est plus tolérée que complètement ancrée. Et il y a des freins législatifs. C'est compliqué d'y avoir accès. Par exemple, il y a un délai de réflexion imposé de 4 mois. Et ça, on peut le remettre en question parce que c'est assez dissuasif. Et les personnes qui s'y présentent, elles ont déjà en tête ce pourquoi elles sont venues. Donc... Bon, ça peut se discuter, ce délai imposé. Et ensuite, il faut savoir que c'est très mal rémunéré en France parce que les médecins sont payés à l'acte et donc ça n'intéresse pas le corps médical. Hein. Et ce n'est pas la même chose ailleurs, comme dans le modèle anglo-saxon. Aussi, pour les clients, c'est très mal remboursé. Et aussi, cette opération, de manière législative, il faut la pratiquer dans un centre qui est quasiment hospitalier. On ne peut pas le pratiquer dans un cabinet, alors que par exemple, dans les cabinets de médecins généralistes, il y a des sièges gynécologiques qui peuvent faire des examens et des opérations. Mais pour la vasectomie, c'est inscrit dans la loi, il faut que ça se passe dans un centre hospitalier, etc. Alors que Maxime Labrie explique que ce n'est pas une intervention qui nécessite absolument une hygiène, comment dire, comme par exemple une opération à cœur ouvert, où vraiment c'est presque aseptisé, c'est pas pareil. Donc c'est un peu pensé quand même pour qu'on n'ait pas accès à la vasectomie quand même. Et donc, il y a ces freins législatifs, ce manque d'informations pour la vasectomie et bien sûr la peur. Et ça, c'est l'obstacle culturel. On le voit dans la BD, quand il va voir le médecin, il transpire, il n'est pas bien parce que quand même, oui, il faut se faire à l'idée, il le dit lui-même, Stéphane Jourdain. Donc ça, c'était pour la vasectomie. Et ensuite, je vais parler de l'anneau thermique. Alors, ça se rapproche du slip chauffant. Parce que ça se base sur le fait scientifique, prouvé, approuvé, hein, pas de doute, que la chaleur stoppe la spermatogénèse, effectivement. Alors comment ça marche et qu'est-ce que c'est ces anneaux ? Donc c'est un anneau épais de quelques centimètres, en silicone biocompatible, c'est un produit durable, c'est le même matériau que la cup, dans lequel on va passer la verge et on tire sur la peau du scrotum. Et donc, les testicules, par manque de place, vont mécaniquement remonter et ils vont être collés à la peau. Et donc, ils vont gagner quelques degrés en plus, entre 2 et 4 degrés. Et ça va permettre de stopper la spermatogénèse. Alors, il faut le porter 15 heures par jour minimum pendant 3 mois. Et à côté, il faut faire un spermogramme, donc il faut faire un contrôle tous les 3 mois, puis tous les 6 mois de sa fertilité. Donc dans le documentaire, on va dans un planning familial à Montpellier où il propose une espèce de table ronde, c'est un moment de parole où viennent des contraceptés pour suivre la formation et comment le porter, comment le mettre, s'informer en fait. Et la sage-femme qui occupe cette formation explique qu'après le premier confinement, il y a eu un gros boom. Les gens se sont vraiment intéressés, se sont portés sur la question. Donc je le souligne pour dire que quand même ça bouge. Même si ça reste dans un milieu peut-être confidentiel, ça évolue. Et dans le documentaire, on voit que ce jour-là, il y a une prise de parole, il y a une dizaine de jeunes hommes entre 24 et 35 ans. Et donc, par exemple, Jean, qui a 24 ans, il pratique la contraception thermique depuis plus d'un an et il dit « Pour moi, c'est une révolution et il faut absolument diffuser ça ». Et Julien, qui a moins de 30 ans aussi, assure que pour lui, c'est déroutant de voir à quel point c'est facile, c'est indolore et on peut le fabriquer, on peut le commander soi-même. Il n'y a pas besoin de prescription médicale et ça marche. Et c'est ça qui est révolutionnaire en fait. Et ce qui est assez intéressant avec Julien, c'est que ce jour-là, il apporte donc un anneau qu'il a commandé sur Internet et des jockstraps qu'il a fait lui-même en réutilisant les soutifs de sa copine. Donc là, on est vraiment dans une déconstruction de la masculinité qui est très importante. Il souligne lui-même que cette déconstruction-là lui fait du bien et lui donne confiance en lui. Et alors, le jockstrap, c'est un sous-vêtement masculin qui existe depuis des années et des années. Hein. Il n'y a pas que le caleçon et les slips. Et il est utilisé surtout par les sportifs parce qu'il a un meilleur maintien avec des espèces d'élastiques qui remontent sur le haut de la cuisse. Et donc, du coup, il réutilise les soutifs de sa copine, il utilise les bretelles, il les recoue, il les enfile et il met l'anneau thermique. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il arrive à être contracepté et ça marche. Et c'est d'une simplicité assez, assez déconcertante. Et il assure que tirer la peau du scrotum pour que les testicules remontent, c'est zéro douleur. Mais vraiment. Et... Après, ce qui est important à souligner et qui est montré dans l'enquête, c'est que tous ces jeunes hommes qui sont contraceptés, ils viennent pas par un élan idéologique quelque part. C'est pas pour faire tomber le patriarcat à la base. C'est parce que leurs copines, leurs compagnes, leurs femmes leur en ont parlé, leur ont dit c'est une charge trop forte, ou parfois même ce n'est pas possible, c'est jamais la bonne pilule, il y a un rejet du stérilet, ça entraîne des énormes complications de santé, de stress, d'une charge mentale conséquente. Et donc, c'est pour ça qu'ils se tournent vers la contraception. Il faut le souligner. Mais c'est quand même important de voir que ça bouge. Et surtout, ce qui est assez déconcertant, c'est, comme je l'ai dit, le « do it yourself ». C'est-à-dire... on n'a pas d'informations là-dessus, il y a des freins législatifs, les supermarchés ne veulent pas le commercialiser, bah, on s'y met nous-mêmes en fait, on le fait nous-mêmes et ça marche. Et moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant. Et donc, ce que je voulais souligner aussi, c'est que la sage-femme de ce planning familial à Montpellier explique qu'elle fait des passages dans les collèges et les lycées pour sensibiliser en fait, les jeunes hommes, il faut s'y mettre. Bah, le plus tôt possible, hein, pour casser les tabous, c'est toujours mieux quand on commence tôt. Et elle dit « À chaque fois, j'ai eu des malaises. Un mec qui tombe de sa chaise, un autre qui devient tout blanc et demande à sortir. » Et ensuite, elle explique qu'il y a toujours l'argument du « c'est contraignant » avec le geste de douleur où il se protège l'entrejambe. Donc, il y a quand même un travail à faire. C'est quand même, ça reste une zone à laquelle on ne peut pas toucher. Et c'est des idées, c'est des fausses idées en fait, c'est des idées reçues. Mais on voit que quand on s'y intéresse un peu, finalement, on peut casser tous ces préjugés. Et donc, les solutions à faire, c'est... Donc, il faut former les médecins généralistes pour qu'ils amènent leurs patients à s'intéresser à cette contraception. Il faut que la contraception masculine passe sous prescription médicale, dans le sens où les anneaux... Par exemple, thermique, on ne va plus les commander sur Internet, c'est le médecin qui va le prescrire. Ça ne change pas grand-chose, juste ça permet de sortir un peu du confidentiel. Parce que comme ça, si c'est le médecin qui vous dirige directement vers cette contraception, ce sera forcément beaucoup plus popularisé et plus rapidement. Et aussi, évidemment, il faut que les politiques publiques s'engagent. Quand on voit, par exemple, qu'il n'y a encore pas très longtemps, Olivier Véran voulait étendu la gratuité de la pilule féminine jusqu'à tel âge, je ne sais plus exactement. Il ne parle même pas de la contraception masculine. Donc, il faut arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est pas comme si d'autres n'y arrivaient pas. Je veux dire, par exemple... Le pays européen qu'on peut citer, c'est la Belgique. À Bruxelles, les députés en parlent ouvertement au département et ils sont en train de former leurs médecins, leurs jeunes médecins, pour amener les clients à se contracepter. Donc, voilà, il y a encore... C'est une question purement politique, en fait. Donc, je vais terminer là-dessus. Simplement, pour plus d'informations, parce que je n'ai pas pu parler de tout, je vous conseille le site Ardécom, qui est très, très au point, et l'association Garcon à Toulouse. Donc, c'est le groupe d'action et de recherche pour la contraception. Et bien sûr, d'aller voir, s'informer au planning familial. Voilà, merci.
Vous venez d'écouter une musique composée par Terry, autrice, compositrice et chanteuse à l'initiative du groupe Terestessa. Terestessa, c'est une musique qu'on écoute de préférence allongée sur son lit, qui voyage le long de la colonne vertébrale et cherche son équilibre quelque part entre la France et l'Italie. Si vous avez envie de découvrir son univers le temps d'une soirée, Terestessa fait son premier concert ce vendredi soir à 18h30 à la passerelle Negrinis, 38 rue des Anges. On vous invite à venir avec nous les écouter. Alors, cette semaine, j'ai choisi de m'interroger sur la vieillesse, sur le terme même de vieux et de vieille. de ce que ça a comme connotation péjorative lorsqu'on dit « elle est vieille » ou « elle a pris un coup de vieux ». J'ai décidé d'organiser ma chronique en 3 parties, sur 3 semaines, afin de créer un triptyque sur la question de l'âge, c'est-à-dire que signifie prendre de l'âge dans la vie d'une femme. L'âgisme dans la société et la mise à l'écart des corps vulnérables et malades. J'ai interrogé 3 femmes et j'ai écouté leurs témoignages. Hier, je terminais le chapitre du livre « Sorcière » de Mona Chollet, intitulé « L'ivresse des cimes ». Dans ce chapitre, il est question de la vieillesse des femmes et les injonctions qui leur sont faites pour ne pas vieillir, ou du moins, le plus lentement possible et le plus discrètement du monde. J'ai eu envie de parler de l'âge parce que ce sont des choses qui nous concernent toutes et tous, et je me pose beaucoup de questions quant au traitement que l'on réserve aux personnes vieillissantes et âgées. Pourtant, je crois qu'il y a une différence entre être une femme vieillissante et un homme vieillissant, parce que nous ne subissons pas les mêmes diktats et les mêmes injonctions sociétales. C'est Baudelaire dans le poème « La beauté » qui disait « Je hais le mouvement qui déplace les lignes », sous-entendant par là que les rides froissent et malmènent la beauté. On peut aussi lire de jolies choses du même type dans le poème « Les petites vieilles » du même auteur. Mona Chollet cite à plusieurs reprises des témoignages de Sophie Fontanelle qui raconte comment les regards ont changé sur elle quand elle a décidé de ne plus se teindre les cheveux. Ces injonctions existent. J'ai vu des femmes paniquer pour une question de couleur de cheveux et de racines. Et je me suis toujours demandé pourquoi mon père et les hommes autour de moi s'en sortaient si bien, avec leurs cheveux poivre et sel. Pourquoi les coiffeurs et coiffeuses ne leur proposaient pas des couleurs à eux. On demande aux femmes de discipliner leurs cheveux, gris ou blancs, car ce qui vieillit sort apparemment de la sphère du désir. On demande aux femmes de discipliner leurs cheveux comme on leur demande de discipliner leur esprit, ne pas trop en dire, rester à leur place, être polies, ravies et discrètes. Le cheveu blanc, gris, hirsute, comme l'interroge Mona Chollet, serait peut-être alors aussi le symbole de l'insoumission. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pourrait-on pas tout se permettre, à 60 ans aussi, porter des mini-jupes et ne plus en avoir rien à foutre lorsqu'on devient vieille ? À regarder les panneaux publicitaires, à entendre les témoignages, puis à regarder ce qui se passe au cinéma et au théâtre, la vie d'une femme est réduite à 20 années, c'est-à-dire de 15 à 35 ans, puis après terminée. Il est conseillé de disparaître, puis de vieillir discrètement, et surtout, teindre la poignée de cheveux blancs qui pointent sur le sommet de nos crânes, pour ne pas effrayer les hommes et ne pas les faire débander à tout jamais. Référence à Sorcière encore. Rod Stewart, dans la chanson Maggie May, clame haut et fort que les rayons de soleil du matin montrent vraiment l'âge de la dite Maggie, comme si elle avait cherché à le lui cacher et que, sous-entendu, ce n'est pas vraiment sexy. C'est Virginie Despentes qui dit que les hommes n'ont pas de corps, et elle a raison. Pourquoi ? Parce que symboliquement parlant, et depuis toujours, on leur confère en philosophie notamment la vertu de l'esprit. Les hommes auraient l'apanage de la pensée, tandis que les femmes ne seraient que matière, corporéité, flux dégoûtant et repoussant. Depuis Descartes, qui a opposé diamétralement le corps à l'esprit, il y a de vieux restes en philosophie. L'esprit ne tâche pas, il est immortel, il s'exprime avec grâce et sans pesanteur. Le corps subit, évolue, transforme, se plie, accouche, va aux toilettes, a des besoins, et puis finalement meurt, parce qu'il ne peut pas faire autrement, et que telle est sa fin, son but ultime, sa destinée animale d'entrailles, de viscères et de sang. Comme le dit Mona Chollet dans son ouvrage, je cite, « Occuper une position dominante dans l'économie, la politique, les relations amoureuses et familiales, mais aussi dans la création artistique et littéraire, permet aux hommes d'être des sujets absolus et de faire des femmes des objets absolus. La culture occidentale a décidé très tôt que le corps était répugnant et que le corps, c'était les femmes. » Fin de citation. Mais alors, si les hommes n'ont pas de corps, pourquoi prennent-ils tellement de place dans l'espace physique et sonore ? Pourquoi sont-ils tellement omniprésents quant à notre vieillissement ? Et pourquoi donnent-ils tout le temps leur avis quant à l'apparence d'une femme, sa chevelure et son poids, et la taille de ses chevilles, la longueur de ses doigts et la longueur de ses cils ? Carrie Fisher, qui incarnait Princesse Leia dans Star Wars, a dit que les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes, mais qu'ils ont l'autorisation de vieillir dans l'espace public, qu'ils ne subissent pas, notamment au niveau du star system, tous les diktats que les femmes subissent dès la vingtaine, celles de rester telles qu'elles sont, stagnées donc, à n'importe quel prix, même celui de se faire péter le nez par la chirurgie, comme le dirait Virginie Despentes. J'ai choisi d'interroger ma mère sur son rapport à l'angoisse de la vieillesse, ce qu'est la vieillesse pour elle et comment elle le ressent. Je lui ai demandé de me parler de cette étape, si elle se sentait vieillir avec la même colère, si elle voyait le regard sur elle changer, si elle avait la sensation que les gens cessaient de s'adresser à elle de la même façon. Elle m'a répondu brièvement et je n'ai pas changé ses réponses. La vieillesse est une terre inconnue que nous devons apprendre à traverser avec sérénité. Mais cette quête s'avère ardue de par tous les mystères qu'elle recèle. C'est toutefois dans l'ordre des choses, c'est un cap à passer, une entrée dans un univers autre, avec les certitudes liées à notre parcours de vie et cette crainte de l'ailleurs que nous n'appréhendons pas encore. Pour ma part, je me sais vieillissante et pourtant je ne le vis pas comme un naufrage si souvent annoncé par certains bien-pensants. Il est vrai que cela dépend beaucoup de ce que nous avons vécu ultérieurement et qui nous a construits. Chaque être est un et unique. J'ai bien sûr la sensation de ne pas être la même aujourd'hui qu'à 20 ans. Pourtant, je ne voudrais pas revenir en arrière. Petite référence à Gréco. Malgré tout, je regrette maintenant de ne pas avoir suffisamment profité de ces années passées où c'était encore l'âge des possibles. Jeune, on ne pense pas à la vieillesse, à ceux qui l'accompagnent, et c'est heureux. Aujourd'hui, je vois mon corps comme une enveloppe floue. J'ai tout de même du mal avec lui. Je ne l'ai jamais trop apprécié, il est vrai. Seulement maintenant, j'ai conscience que je n'ai plus de pouvoir pour le changer. C'est lui qui a pris le pouvoir, et le plus difficile à accepter, c'est que c'est irrémédiable. Il va falloir que je me le réapproprie, tel qu'il est, et tel qu'il deviendra inexorablement. C'est un autre apprentissage du rapport à soi. L'image qui est donnée de la femme vieillissante actuellement ne reflète malheureusement pas les affres dans lesquelles elle se trouve souvent confrontée. Ou alors, c'est par des femmes souvent connues, âgées, mais tellement transformées, que cela ne veut plus rien dire. C'est un leurre. Je ne me sens pas concernée par cela, j'ai une autre exigence de moi-même et j'ose espérer n'être pas la seule à l'être. Pour ce qui est du regard porté sur moi, il est vrai qu'il a changé. Parfois, il m'arrive d'être regardée par un homme ou une femme et je me surprends à me demander pourquoi, comme si quelque chose n'allait pas. Le danger vient de nous parfois, on s'auto-censure et c'est par la négative que l'on se voit. Une chose cependant m'exaspère. C'est lorsque l'on me répond sur tel ou tel sujet, ce n'est pas de ma génération. Je trouve cela tellement réducteur. Cela appuie bien sûr sur le fait que je ne suis plus dans la prime jeunesse, mais plus encore sur la bêtise que cela représente. Même chose sur les diffuseurs, nouvelle génération, d'infos ou d'autres supports. C'est totalement aberrant et assez cynique, je trouve. Je crois qu'il faut vivre l'instant présent et se dire que nous avons cette chance d'être là. Je ne crois pas à la jeunesse éternelle et je ne souhaite pas changer le cours des choses. Je souhaite juste pouvoir continuer d'avancer dans ma vie avec l'intérêt porté aux personnes, aux choses qui m'entourent. Surtout, ne pas faillir, ne pas faiblir de trop. Je suis entrée doucement dans cet état de fait sans heurts notoires malgré les aléas de la vie. Les femmes doivent résister encore et encore. On les manipule, on les caricature, on les victimise, on les culpabilise. Est-ce normal? Je ne le pense pas. Petit cas de conscience, une fois de plus, où sont les hommes dans cette grande histoire? Leur demande-t-on à eux comment ils vivent leur vieillesse? Apparemment non. Sans doute ne vieillissent-ils pas. Étonnant, non? Pour conclure, il m'est souvent arrivé de croiser des femmes âgées, que j'ai trouvées incroyablement belles. Et c'est ce qu'il faut retenir. L'âge n'est pas rien, mais s'il est vécu comme une nouvelle aventure humaine, un nouvel épisode dont on accepte les tourments, alors nous aurons peut-être un jour gagné notre liberté et notre légitimité d'être ce que nous sommes vraiment. Fin de la citation de ma mère. Ce que je trouve surprenant dans ce témoignage et touchant, c'est l'idée que ma mère explique ne pas vouloir revenir en arrière, puis dit que la jeunesse est l'âge des possibles. Pourquoi ne pourrait-on pas tout réinventer? La jeunesse, pour une femme, consiste peut-être plutôt à tenter de se dépêtrer des liens dans lesquels on a grandi et trouver son identité, trouver sa voie. Mais est-on tellement libre alors? La vieillesse est faite pour être folle, dit Thérèse Claire, la fondatrice de la maison des Baba Yaga à Montreuil. Et c'est ça que je retiens. Une vieillesse fantaisiste, folle, sensuelle et débridée, pour faire exploser les préjugés sur la vieillesse féminine. L'âge des possibles, c'est toute la vie, et les cheveux gris et blancs aussi. Là-dessus, je vous conseille vivement de regarder le film Harold et Maude, pour un cinéma romantique loin des clichés agistes, et une histoire d'amour bien trop belle pour être résumée. Et je conclus ma chronique en remerciant chaleureusement ma maman pour ses mots et son témoignage, ainsi que Mona Chollet pour les ressources, son livre Sorcière, Virginie Despentes, ainsi qu'un podcast à soi, toutes ces littératures qui font avancer, donnent de l'espoir et de la voix. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. What you want,
opportunities are. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do. You know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are.
Bonjour les copaines. Alors moi c'est Sam, j'ai 25 ans et j'aimerais trop être comme la maman de Manon. D'ailleurs, merci Manon pour ton intervention. Puisqu'en fait, j'ai 25 ans et j'ai déjà peur de vieillir. Voilà, ça arrivait maintenant. J'ai peur de mon miroir et j'ai peur de la manière dont il me regarde. Et j'ai peur de l'homme coincé dedans et qui va me dire un jour, ça y est, tu as disparu. Et donc, tu n'as plus le droit d'exister. J'ai écrit un texte à propos de ça. Je vais vous le lire. Et puis je vous dis d'avance qu'il y a un petit peu de violence dedans, donc faites gaffe à vos petites oreilles, à vos petits cœurs, et puis si ça vous coûte d'écouter, ne le faites pas. Hop. Là, dans ce texte, il y a une femme donc, du coup, qui, comme moi, est devant son miroir et qui en a très peur. Je vais commencer. Me revoilà assise devant mon miroir, mais j'ai arrêté de pleurer, car je n'ai plus de pleurs. L'espace me semble vide si je ne peux pas le remplir de mon eau salée. Le silence est lourd sans mes couinements de petits chiens. Je me regarde droit dans les yeux, ces deux petites billes qui se sont enfoncées dans mon visage comme si elles ne voulaient plus voir. Mes yeux me rappellent qui je suis et qui j'ai été. Moi, j'ai tendance à oublier. Eux, ils sont toujours un peu les mêmes, même s'ils sont devenus fainéants. Ils aimaient dire les choses lorsque ma bouche avait du mal à fabriquer des mots, danser un peu, ignorer beaucoup, et constater lorsqu'il le fallait. Ils se sont fatigués avec le temps, et je les comprends. Maintenant, ils préfèrent attendre. Ils se posent, tranquilles, sur un objet choisi au hasard, et après, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils s'ennuient beaucoup, et ces cascades qu'ils ont le pouvoir de créer sont leur seule source de distraction. Là, je leur en demande énormément. Je leur impose d'aller là où je veux trouver ma peine, et ils n'ont plus l'habitude. Fatalement, mon regard se pose sur mes mains. J'en ai marre de les voir. J'en ai marre de les voir et de les contempler. J'en ai marre de vous regarder pourrir. J'en ai marre de compter vos tranchées. J'en ai marre de vous voir vous agiter sans aucune raison et aucune pitié alors que j'ai besoin de vous. Ce sont les pires des tristesses, des traîtresses, mes mains, toutes mollassonnes et fatiguées. Elles sont les premières à m'avoir laissé tomber. Je leur en voudrais toujours. Les paumes, elles passent encore. Quand je retourne mes mains, ça va, je respire pendant 2 secondes. Mais alors ces creux au milieu de mes doigts, ils prennent un malin plaisir à me narguer constamment. J'ai pas encore envie de me concentrer sur mon visage. Je garde le meilleur pour la fin. Je sais très bien que la vision de mes joues et de mon front va peut-être sortir mes yeux de leur fainéantise. Pendant quelques instants, ils vont activer la cascade, appuyer sur le bouton « on » et ce sera parti. J'ai hâte, mais je vais attendre. Je vais m'attaquer au ventre. Lui, j'ai appris à le détester depuis petite, donc ça va, j'ai l'habitude. Alors ce ventre, si rond, mais qui trouve le moyen de pendre vers le sol, perpétuellement fatigué, qui tire la gueule avec cet horrible nombril bien trop visible qui me sépare tous les jours de ma mère. Lorsque j'étais enfant, j'aimais gonfler ce ventre pour jouer à la maman et le regarder dans un miroir plus clément que celui devant lequel je m'assois tous les jours. Puis les années ont passé et elles m'ont demandé d'arrêter de le rendre plus gros. Elles m'ont dit qu'avoir un enfant n'était pas drôle, mais qu'il le fallait quand même. Elles m'ont chuchoté parfois qu'avoir un ventre occupé était synonyme de soumission, et elles m'ont rappelé chaque jour qu'y cacher de la graisse était interdit. Lorsque je suis devenue une femme, c'est-à-dire lorsque les hommes ont commencé à me déshabiller avec leurs regards pendant que je marchais dans la rue, j'ai compris qu'il fallait que je leur fasse plaisir et que je tâche de garder mon ventre en dessous de mes côtes. C'est pourquoi, tous les soirs, je plaçais mes doigts au centre de ma cage thoracique, puis au niveau de mes hanches, vérifiant scrupuleusement que ce ventre soit au bon niveau. Aujourd'hui, il ne passerait plus le test. Il en a subitement eu assez de brailler sans que je l'entende et s'est vengé de toutes ces années passées à être soumis aux caprices tyranniques de son ingrate propriétaire. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est d'enfoncer un couteau dans mon nombril et de voir si maintenant, mon ventre peut résister à mes caprices, s'il a des désirs de vengeance, s'il a le pouvoir de me ralentir de par son poids, s'il veut toujours faire la révolution, me faire tomber au sol en me tirant doucement vers l'avant. J'aimerais bien voir comment il sentirait lorsqu'il se videra de tout son sang, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, les organes et la petite girouette qui n'arrête pas de s'agiter quand je ressens les choses, alors que je lui répète sans cesse que je n'aime pas ça et qu'elle doit s'arrêter. La pensée de ce ventre insolent qui se fait remettre à sa place me fait sourire. J'ai failli regarder mon sourire, mais je me suis arrêtée à temps. J'ai dit le meilleur pour la fin. Je veux ce visage pour la fin. Passons à mes jambes, sèches, avec leurs rainures blanches qui, se rejoignant, imitent la peau d'un serpent sans en avoir l'élégance. Je me souviens des regards qu'elles attiraient sur elles, et je ne me souviens que du bien que cela me procurait. Ingrate, ingrate, ingrate jeune femme qui pleurnichait lorsqu'on la regardait. Je ne me souviens plus des raisons stupides qui me poussaient à geindre de la sorte. Je passe à mes pieds, que je n'ai jamais aimés, mais qui ne me servaient pas à grand-chose de toute façon, car elle n'aimait plus vraiment les prendre dans sa bouche. C'était une lubie passagère qu'il a eue au début de notre relation, lorsqu'il explorait encore chaque partie de mon corps. Je veux passer rapidement au reste, mais je suis lassée car je connais déjà les bras. Je les ai trop faits. Ils ont suivi les mains dans leur trahison. Ils sont vite devenus lourds. Ils ont vite commencé à me faire chier. Je les ai cachés rapidement. Je m'en fiche. Je les palpe un peu quand même. Je constate sans grande surprise qu'ils bâillent plus qu'hier et que, eux aussi, tentent de me tirer au sol. Je ne voulais pas m'attarder sur eux, mais je continue à les malaxer pendant un long moment, les examinant avec ennui et dégoût. En toute honnêteté, je vous le dis, j'aimerais juste faire durer les choses, attendre au maximum. Je sens bien qu'on arrive bientôt au moment du visage. Très bien. Calme-toi. Tourne-toi. Essaye donc ce dos courbé. Je ne peux que difficilement le voir. Je suis obligée de tourner ma tête d'une drôle de manière, ce qui, bien évidemment, me provoque une grande douleur. J'essaie de regarder un peu quand même, mais je n'y parviens pas et j'abandonne parce que franchement, ça vaut pas le coup. Se bloquer le dos avant le show final. Je me retourne. Je sens l'excitation monter en moi. Je n'ose même pas dire à mes yeux « C'est bon, vous pouvez y aller ». Mais je me lance et on y va. Je commence par le front. Répugnantes rides, toutes bien alignées, comme elles sont sages, toutes bien rangées. Ce sont de grosses connes. Elles veulent aller crier sur tous les toits que je suis assez vieille pour avoir des crevasses bien rangées sur une des parties les plus visibles de mon corps. Mes joues, putain de merde. Des trous, des failles, des fossés à s'en jeter dedans. Ça part de sous les yeux et ça finit jamais. Il y en a même autour de ma bouche, ma belle bouche. Celle qui m'a tant servi. Elle a donné, bougé, embrassé, mordu, elle s'est ouverte. Elle en a tant fait et la voilà maintenant. Cette vieille bouche fripée. Qu'elle est laide. Elle est si laide, on dirait qu'elle pleure, qu'elle a jamais connu la beauté, la grandeur. Et je l'ouvre, ses dents, elles sont là. Inchangées. Jaunies par le tabac. Mais ce sont les mêmes. C'est pas juste. Je les entends chuchoter. Que ce n'est pas juste. Et elles ont raison. Rien n'est juste dans tout ça. Elles restent là, si belles, pareil que ce qu'elles étaient dans l'ancien corps. Elles n'en peuvent plus de toute cette laideur. Je les entends crier. Maintenant, je sais qu'elles n'en peuvent plus. Je m'en saisis, car après tout, elles ont raison, bien raison. Je vais les sauver. J'en arrache une. Ça saigne. Ça pisse le sang. Mais elle est libre. Et pendant qu'elle pleure de joie, les autres continuent de crier. Elles gémissent, elles sont jalouses, c'est normal. Mes bébés, arrêtez, stop. D'accord, je les arrache une à une. Ça pisse encore le sang partout sur ce vieux corps en ruine. Je les entends crier qu'elles sont heureuses. J'ai tout arraché. Elles sont par terre, elles dansent. Ce corps est couvert de sang. Je me mets à rire. Pardon, mais je me moque, car c'est bien mérité. Le son de mon rire, il a commencé tout doux. Mais il s'emporte un peu, car il est trop content. Il s'envole, et ça me rend comme si j'étais ivre. Comme avant, comme quand j'étais vivante et que je faisais n'importe quoi. Je mets le miroir à terre, et d'un coup, parce que j'en ai envie, je saute dessus. C'est trop bien, parce qu'après quelques sauts, les bouts de verre, ils festoient avec nous. Ils se moquent aussi, même si c'est pas sympa. Ils rentrent dans ma peau, et ça fait plus de sang. C'est méchant, mais c'est drôle. Ils l'ont tellement cherché. Ils ne méritent que ça, la peine. Alors on voit toutes les parties de mon corps qui chouinent comme si elles ne l'avaient pas bien mérité. Je les trimballe jusqu'au lit. Je laisse les bouts de verre faire la fête par terre. Et je m'endors, à côté, dans mon sang, en me marrant. Merci beaucoup. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind.
Merci pour ces prises de parole vraiment impressionnantes. Personnellement, j'ai décidé de vous parler d'une pièce de théâtre qui m'a aussi énormément impressionnée et bouleversée. C'est la pièce « Les femmes de Barbe Bleue ». Donc, cette pièce de théâtre est née d'une écriture collective à partir d'improvisations dirigées par Lisa Gouess, de la compagnie nommée « Juste avant la compagnie », et a été mise en forme par Valentine Krasnochok. Elle est d'abord jouée dans le cadre du Festival de théâtre Impatience en décembre 2019 et va recevoir lors de cet événement plusieurs prix, le prix des lycées et du jury, puis va tourner dans les théâtres en France et a été jouée fin octobre au Théâtre Sorano de Toulouse. Cette pièce s'est écrite autour de la question « Qu'est-ce qui pourrait vous attirer et révulser chez Barbe Bleue ?» Cette question a été posée aux comédiennes qui, à partir d'improvisations, ont créé 5 histoires différentes. Dans chacune des histoires, on retrouve ce bourreau de barbe bleue qui a des traits de caractère très différents à chaque fois. Il aura par exemple des allures de guide forestier ou sera un mondain. La pièce refuse alors toute possibilité de manichéisme et trouve une grande richesse avec Barbe Bleue qui devient Monsieur Tout-le-Monde. D'autre part, cinq femmes sont dessinées par les actrices à partir de la réalité. Je cite Valentine Krasnochok, début de la citation. « Nous sept, dans nos corps, dans nos vies de femmes, nous avons toutes déjà expérimenté la privation de liberté. » Fin de la citation. La création de leurs personnages prend donc vie dans ces cicatrices-là. La pièce fait alors cohabiter cinq histoires de vie, et cinq fictions sont jouées. À chaque témoignage, on plonge dans l'histoire racontée avec humour, sincérité et attendrissement. Lisa Gwess va dire dans sa note d'intention, début de la citation, on rencontre parfois des barbes bleues dans nos vies d'adultes. J'ai souhaité me servir de ce conte, de cette matière trouée pleine de mystères pour questionner nos imaginaires féminins. J'ai proposé à cinq comédiennes de travailler sur les béances ouvertes par ce texte, de sculpter avec leur propre imaginaire et leur propre sensibilité le témoignage possible d'une femme de barbe bleue. » Fin de la citation. Quatre femmes sont sur scène. Il y a de la lumière bleue, des vêtements bleus, une chemise bleue satin, des jeans bleus, un peignoir bleu, une veste en jean bleu, un anorak quechua bleu, une lueur bleue prend la scène. Le verbe « prendre » est juste. Ce bleu prend le théâtre, comme si la barbe de cet homme s'étendait sur la scène. Prendre, la prise, l'emprise. Ce bleu devient le symbole de l'emprise de ces femmes. Laisser prendre n'est pas juste, c'est une prise. Un coup d'état sur leur corps, sur leur pensée, sur leur vie, sur leur être, une prise de bleu. Elles sont cinq. Quatre dans l'au-delà et une dans le présent de son emprisonnement, de ses violences, de toutes ses atteintes à ce qu'elle est. La cinquième femme est habillée d'une robe rouge. Elle commence et finit la pièce en devenant celle qui vengera toutes les autres. Ce qui est remarquable dans cette pièce, c'est l'exemple de sororité qu'il nous donne. Ces femmes se libèrent de l'emprise de leur bourreau grâce à la prise de parole, à l'écoute, l'empathie et surtout la compréhension de celles qui les entourent. Dans une disposition de cercle de parole, elles témoignent de leur histoire de vie, retracent chaque ligne de leur passé et de l'emprise que leur mari a eue sur elles pour s'en libérer. Ces histoires font mal, par leur réalité, par leur indéniable réalité, car cette pièce aurait pu être un scrapbook des expériences que l'on entend. Rien n'est inventé. J'ai perçu ces moments comme une réponse aux clichés qui entourent les violences conjugales et sexistes, en montrant des femmes au background, personnalités et âges très divers. On découvre leurs moments de bonheur, leurs moments de douleur, et les mécanismes vicieux de celui qui est censé les aimer. Chacune leur tour, elles expriment en détail comment elles l'ont rencontré, aimé, embrassé, désiré et vécu avec Barbe Bleue. Elles parlent de la passion qui les a unies et des moments d'humiliation et de torture psychique et physique devenus outils de leur mari. On constate alors comment graduellement, cet homme s'est immiscé dans leur corps, dans leur tête et est devenu la voix qui les poursuit et même lorsqu'il part, chuchote sa supériorité dans leurs oreilles. On se rend compte de tout ce qu'il met en œuvre pour affirmer que dans cette relation, ils ne sont pas égaux et que sa voix, sa place et ses désirs sont plus importants que leur vie. La manipulation est partout, dans les grands gestes, les petits mots, les regards, et a recouvert comme de la poussière chaque élément de leur vie. Une des répliques de la pièce est, je cite, « Tu es son égal surtout. Oui, tu es son égal. Alors tu le regardes droit dans les yeux, tu t'affirmes et tu l'affrontes. » Fin de la citation. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire en revivant et rejouant entre elles les moments où il agit sur son emprise pour se libérer et donner une nouvelle peau à ses instincts. Elles vont l'affronter et redevenir son égale, en réunissant ensemble la force pour reconstruire en elle ce qui l'a détruit. Ce retour de flamme qu'elles lancent à cette chaise vide pour Barbe Bleue naît de leur sororité. Elles peuvent revivre ces moments extrêmement difficiles car elles sont ensemble. En recommençant les disputes, les moments fatals de leur quotidien et leur vie, dans la couleur de leur force, le bleu est alors effacé. La simplicité de la mise en scène donne toute la place aux comédiennes absolument incroyables et à leurs mots qu'on a besoin d'entendre. Rien de plus n'est nécessaire. Sur le plateau, l'espace est vide et seules cinq chaises sont présentes. Les cinq chaises sont alignées. Cependant, à certains moments, ils vont être placés face à face pour rejouer les moments d'affront de leur quotidien et changer les rapports de pouvoir de ces instants. Par exemple, une scène qui m'a beaucoup marquée est une scène qui va rappeler les codes d'un match de boxe, avec une des femmes qui joue Barbe Bleue, pendant qu'une autre essaie de lui tenir tête dans une dispute. Elle recommence la scène autant de fois que nécessaire avant qu'elle soit libérée de sa violence. Ce moment est clé dans la pièce pour moi, car c'est le reflet de leur sororité. Elles encouragent Madame Bleue, la soutiennent et lui donnent la force pour se libérer. Je n'ai jamais vu un tel encouragement, une telle coopération pour lui redonner le pouvoir, pour profondément transformer ce moment, et surtout qu'elle reprenne conscience que ce qu'elle a vécu n'est pas normal, et surtout pas de sa faute. Une puissance indescriptible se ressent dans cette communauté d'épouses. Assise face à elle dans mon siège rouge de théâtre, je la ressens. Elle me berce, me met en sécurité. Et lorsqu'à un moment mes larmes coulent devant le plateau, je n'ai pas de honte, je ne les cache pas. Je les laisse descendre ma joue, car j'ai l'impression que la salle pleine est contaminée de cette énergie. J'aurais voulu que cela dure en sortant du théâtre. Car c'est cela qu'on recherche tant que ces violences continuent d'exister, la certitude qu'en trouvant le courage d'en parler, l'idée que ce soit de notre faute, un malentendu, une jupe trop courte ou un manque de bon sens ne soit jamais pensé, et que les mots « pourquoi elles ne sont pas parties » ne soient plus jamais prononcés. Je suis ressortie du théâtre avec cet espoir-là, et en même temps une réponse forte à ceux qui le pensent encore ou le disent « allez voir les femmes de barbe bleue, écoutez leurs histoires et voyez en elles toutes celles qui ont vécu des violences et vous comprendrez, je l'espère, que cela ne pourra jamais et ne sera jamais la faute de celle qui les a subies. » Un autre moment fort pour moi de ce spectacle et du teaser disponible sur internet est la femme vêtue de rouge, encore vivante, qui va découvrir la cave de son mari qui respire. La scène est simplement ça. On ne voit que son dos, qui bouge au rythme de l'air qui entre dans son corps. Je la vois comme sienne, cette respiration. C'est ce qui lui reste. La peur que l'on ressent dans son hyperventilation est sienne. Cette respiration en rouge confronte le bleu qui a infecté chaque partie de sa vie, de leur vie. Elle respire et inspire durant cette pièce la colère et la vengeance de ces autres femmes. Elle inspire leur force, leur personnalité, chaque part de leur être qu'il leur a pris. Je ne me souviens plus du moment exact dans la pièce de ce moment, mais je l'imagine être avant qu'elle se venge pour elle toute de barbe bleue, avant qu'elle monte dans sa voiture, allume une clope, les quatre autres femmes avec elle et qu'elle quitte ce chapitre de sa vie, en sachant qu'il n'y aura plus de Madame Bleue après elle.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga.
Le magazine, ça se termine, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et dans le magazine, à partir de midi, on accueille des membres de l'association La Piaf en soutien aux femmes victimes de violences. Du coup, écoutez-nous à partir de midi sur le 92.2.
Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza.
que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra.